Les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Horizon, terre et espace.
Je pense qu'on a dans nos laboratoires des pépites technologiques, un savoir-faire absolument incroyable, et on en exploite encore aujourd'hui qu'un tout petit bout. Chaque fois qu'il y a un partenariat qui peut se nouer avec telle ou telle start-up ou tel grand groupe pour utiliser des technos qui ont été développés au CNES ou avec des brevets du CNES, et moi je suis juste ravi.
C'est bien Philippe Baptiste que vous allez entendre tout le long de ce nouvel épisode. Le CEO du CNES a reçu les rendez-vous New Space par Connect by CNES. Avec lui, nous entamons une nouvelle série de votre podcast préféré intitulé Horizon, Terre et Espace, les enjeux de demain, la pertinence du New Space pour y répondre, objectif Lune, voire Mars. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder avec Philippe Baptiste, saison 3, épisode 1, action.
Horizon, Terre et Espace.
Je vais commencer avec... peut-être définir ce dont on va parler là dans les épisodes à venir et dans celui-ci en particulier avec une définition que j'ai trouvée on va dire sur un site référence et c'est pour ça que je vais la citer, c'est le site internet de BPI France qui indiquait qu'avec l'entrée sur le marché de la space tech de nouveaux acteurs venus du digital mus par un nouvel état d'esprit et une approche différente, du coup le monde du spatial connaît de profonds bouleversements et c'est cette transformation qu'on appelle New Space. Alors, il le date même à 2015 avec la première annonce donc de la constellation OneWeb et 2016 avec le premier retour sur Terre du premier étage de la fusée SpaceX. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition?
Bien entendu, par principe, je suis d'accord avec nos camarades de la BPI avec lesquels on est complices et on a beaucoup de projets conjoints. Alors, cependant, je sais pas si... est-ce que SpaceX, c'est un projet New Space, comme on l'entend, et en particulier de se dire, est-ce que c'est un projet où c'est des acteurs du digital qui s'intéressent au spatial? Oui, sans doute, en partie. C'est aussi des masses gigantesques de capitaux qui ont été investis dans SpaceX par le gouvernement américain et qui ont soutenu l'activité de SpaceX et qui continuent à soutenir de manière extrêmement forte l'activité de SpaceX. Donc, c'est-à-dire que SpaceX n'est pas le prototype d'une start-up qui a été montée dans un garage. Financée pas que par la NASA, par des contrats aussi de lancement, qui sont toujours aujourd'hui des contrats de lancement, en fait, qui sont des contrats de lancement payés par, en particulier, le Department of Defense des États-Unis, et payés très cher. Donc, en fait, on est dans un modèle qui est très, très différent du modèle européen. Déjà, il y a beaucoup plus d'argent qui circule, c'est évident, d'une part. Et puis, d'autre part, nous, on est plutôt... alors là, je parle vraiment d'Ariane 6, mais après, on va parler aussi de New Space. Hein. On est plutôt dans un modèle où les États européens, à travers l'ESA, financent le développement du lanceur. Et puis après, chaque lancement est vraiment négocié euro par euro entre la commission Arianespace ou les États membres et Arianespace, etc. Alors qu'on voit qu'aux US, le schéma est plutôt différent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur chaque lancement et peut-être par contre plus d'autonomie et plus de liberté pour le développement du lanceur.
Mais ce mot New Space, il existe. On le lit partout. Donc du coup, pour vous, ça veut dire quoi?
C'est des méthodes qui font beaucoup référence effectivement à l'écosystème digital et aux startups du digital. Donc, avec des approches qui sont des approches agiles, des capacités à se reconfigurer, des capacités à pivoter. Donc, c'est vraiment concentré aussi autour de petites équipes qui sont par nature extrêmement agiles. Agiles, mais aussi très fragiles, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Pourquoi? Parce que vous êtes une start-up, ça veut dire que globalement, vous êtes très encouragé à prendre des risques avec des capacités de reward qui sont très, très élevées. Et ça, c'est très bien. Mais c'est aussi des forts risques d'échec. Et en fait, c'est ça qui caractérise cet environnement New Space, comme dans d'autres secteurs. C'est qu'en fait, cet environnement qui se développe, ce sont des petits acteurs qui n'ont une chance que de survivre qu'en prenant des risques extrêmement élevés. Et pour se financer, ils mettent un peu de leur argent perso, ils vont aller chercher des investisseurs et puis ils vont utiliser des aides d'État. Et ça, globalement, cet ensemble-là, c'est un environnement qui favorise le risque et qui favorise donc l'innovation qui est derrière cette prise de risque. Et souvent, on entend dire y a l'innovation aujourd'hui, c'est les startups. C'est une caricature, c'est pas vrai, parce que de l'innovation de la R&D géniale, j'en vois tous les jours chez nos grands acteurs traditionnels, j'en vois aussi évidemment au CNES, dans la maison, etc. Donc c'est pas simplement ça. Mais par contre, les grands acteurs traditionnels du spatial, je pense aux entreprises, après on parlera du rôle des agences, évidemment, ils sont plus averses au risque, parce que c'est pas la manière dont ils se sont construits, et c'est pas la manière dont ils se pérennisent. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'il y ait, et ça c'est vrai dans le spatial, mais encore une fois, je pense que c'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs, Mais en fait, il faut arriver à trouver un équilibre gagnant-gagnant entre de nouveaux acteurs qui arrivent, qui sont émergents, qui veulent dévorer le monde, qui prennent des très gros risques. Et ça, c'est vachement intéressant parce que on le fait pas autrement. Et puis à côté de ça, des acteurs qui sont des acteurs plus installés et qui, eux, évidemment, sont beaucoup plus prudents dans leurs investissements parce que quand vous faites un investissement et que vous êtes dans une grande entreprise, ben, vous voulez avoir une probabilité de succès qui est élevée et puis un rendement qui est peut-être plus modeste que le rendement visé par la start-up. Donc on voit bien que ces deux équilibres qui sont, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais simplement, on ne peut pas se priver de ce qui arrive justement avec le New Space. Une des choses qui diffère un tout petit peu entre, puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent du digital dans le New Space, hein, dans cet esprit, c'est que le secteur spatial, en fait, il part, si je caricature, du hardware, c'est-à-dire vraiment le lanceur, le satellite, gros, moyen, petit, et puis tout au bout de la chaîne, il y a l'exploitation des données et justement, le digital sur l'exploitation des données. Donc, ce modèle de New Space basé sur des startups, il est vraiment, mais parfaitement adapté à l'ensemble du secteur aval. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, c'est de l'exploitation des données. C'est des temps caractéristiques pour le développement, le time to market, qui sont relativement faible, c'est-à-dire que c'est le temps du développement d'un soft, d'un produit, d'un concept. Et puis, c'est des capitaux investis initialement qui peuvent être élevés, mais il n'y a pas besoin d'investir puis d'attendre 10 ans pour avoir le résultat. C'est très différent quand vous vous intéressez à l'amont du spatial. Parce que vous regardez un gros lanceur, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas d'exemple aujourd'hui sur Terre de gros lanceur qui a été développé en moins de 10 ans, pour être un peu grossier. Donc ça veut dire la question, est-ce que ce modèle New Space, il est adapté ou pas ? C'est moins évident. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas adapté, mais c'est moins évident. Mais le New Space, c'est aussi le New Space des lanceurs. C'est des gens qui arrivent avec vraiment des idées très fortes. Par contre, il faut que nous, on arrive à les aider en trouvant des financements et en s'adaptant à des temps longs. C'est pas complètement évident non plus.
Vous l'avez dit, le New Space est particulièrement adapté justement à tout le secteur aval, ou du moins à différents types d'applications. Qu'est-ce qui fait que, pour vous, on aura encore plus besoin justement de ces données spatiales et qu'elles viendront encore plus, alimenter le cours du New Space, ou en tout cas de ce nouveau secteur spatial ?
Oui, alors la question des données et du spatial, c'est une question majeure. Première réponse, les données du spatial, c'est les données pour l'observation de la Terre, et donc pour comprendre quel est l'état de la Terre aujourd'hui, mais c'est aussi des données qu'on va utiliser pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et se projeter vers demain. Donc ça veut dire, c'est tout ce qui est le spatial, l'observation pour le climat. On sait tous, et je ne vais pas revenir là-dessus, qu'on est au cœur d'un processus de réchauffement, qui pose d'immenses questions, et donc en particulier, on veut travailler à la source pour réduire la production de gaz à effet de serre divers et variés. Le meilleur moyen de monitorer ces différents éléments, de comprendre l'impact de tel gaz, de telle élévation de température à tel endroit, etc., c'est le spatial, parce que le spatial, il permet d'avoir une vue globale à l'échelle de la planète, de plein de mesures distinctes qui vont être capables de nourrir notre compréhension de l'écosystème Terre à l'instant T, tout de suite là, mais surtout on va être capable en faisant ça de nourrir des modèles mathématiques qui sont développés par les climatologues ou par les météorologues qui modélisent les évolutions du climat. C'est absolument central. Si on n'a pas ces mesures qui viennent de l'espace, on n'a pas de projection de ce qui va se passer demain. On ne sait pas faire. Donc c'est fondamental. Ces mesures qui viennent du spatial, c'est plus de la moitié des mesures qui sont utilisées par exemple par le GIEC aujourd'hui dans ses projections. Ce sera encore plus demain. Ma première réponse, c'est ça. Alors vous me direz, le New Space, maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire ? Alors ces différentes mesures, il y en a qui sont des missions vraiment, des missions scientifiques très amont, etc. Mais il y a aussi des missions, on va avoir besoin de plus en plus de taux de revisite élevés, c'est-à-dire une capacité à repasser plusieurs fois au même endroit pour voir l'évolution de différents paramètres. On utilise de plus en plus non plus quelques gros satellites, mais des ensembles de petits satellites, des flottes de petits satellites, des constellations qui vont être capables d'aller prendre des mesures justement en orbite basse. Comme on est en orbite basse, comme c'est des petits satellites, c'est beaucoup moins cher. En termes de coûts de développement, c'est aussi beaucoup plus atteignable pour des entreprises New Space, qui elles-mêmes en s'y intéressant, Par les mécanismes qu'on a décrits précédemment, on va être capable de faire baisser les coûts. Donc, il y a aussi une porte ouverte gigantesque autour de ça. La première réponse, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le spatial pour le climat. Mais c'est pas que ça, évidemment. Le spatial, c'est aussi tout le charme de ce secteur. C'est qu'en fait, le spatial est utile à énormément d'autres secteurs. Les questions de défense et de sécurité. Et là, on a énormément d'entreprises du New Space qui sont positionnées sur ces sujets, de nouveau avec des constellations, avec de l'analyse de données, enfin, où on est capable d'exploiter des données existantes qui sont pour identifier des phénomènes, pour repérer des objets, etc. Donc, c'est vraiment très, très utile. C'est le spatial pour les télécommunications aussi, évidemment. Donc, c'est évidemment les gros satellites géostationnaires qui ont fait le cœur du business du spatial pendant très longtemps et qui restent importants, mais dont la part de marché globale du spatial, c'est peut-être pas celle qui va augmenter le plus. Il y a beaucoup de choses autour des télécoms, et en particulier des télécoms en orbite basse. Donc il y a la constellation d'Elon Musk qui est opérationnelle aujourd'hui, il y a Kuiper, le projet de constellation d'Amazon, et puis il y a aussi la constellation européenne qui a été votée au Parlement européen. Et c'est donc le lancement d'une constellation européenne en orbite basse pour justement faire des télécoms qui vont nous permettre d'avoir une forme de souveraineté européenne qui est absolument, absolument essentielle pour avoir des télécommunications qui passent par l'orbite basse. L'intérêt, juste en deux mots de ça, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en orbite basse, vous êtes près du sol, quelques centaines de kilomètres versus 36 000 quand vous êtes en géo. Et ça, derrière, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez des temps de télécommunication, des durées de latence qui sont extrêmement faibles. Puis c'est surtout la question du temps réel. Le temps réel est essentiel, c'est-à-dire ce qu'on appelle temps réel dans le monde du numérique, hein, c'est la capacité, vous envoyez un message, vous le recevez en temps réel, donc immédiatement, avec des temps de latence qui sont très faibles. Et ça, vous pouvez pas l'assurer quand vous êtes en orbite géostationnaire. Le signal met trop de temps, en fait, à se propager et à revenir. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Voilà, j'ai cité quelques exemples du spatial, mais il y en a encore plein d'autres.
Et toujours quand on pense New Space, et c'est un peu ce qui nous concerne aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'industries terrestres qui n'ont pas, de près ou de loin d'ailleurs, de rapport direct avec le spatial. Je pense, à l'agriculture, le secteur maritime. On peut même penser à la gestion au sens le plus large possible des territoires, dans l'aide à la décision, par exemple. Vous êtes vraiment convaincu que le New Space va se pérenniser dans ces secteurs-là?
Alors, je suis convaincu que le spatial va jouer un rôle déterminant dans ces différents secteurs, et je pense que là-dedans, le New Space aura toute sa place. Si on reprend les exemples que vous mentionniez, l'agriculture, derrière, le premier exemple qu'on a immédiatement en tête, c'est l'agriculture de précision. Donc, c'est un tracteur complètement robotisé qui va être capable de se positionner automatiquement.
Autonome,
avec Galileo qui va permettre de positionner directement le tracteur. Mais il y a aussi tout un autre champ qui est peut-être une agriculture qui est un peu moins high-tech, mais pour laquelle le spatial est absolument essentiel. Et je pense à plusieurs partenariats qu'on a à travers le Space for Climate Observatory, le SCO, donc qui est une initiative qui vise justement à fédérer des projets partout dans le monde. Moi, j'ai en tête, par exemple, ce projet au Maroc où ce qu'on fait, c'est que on regarde avec un téléphone qui n'est pas forcément un téléphone dernier cri, simplement pour quelqu'un qui a une parcelle à un moment donné, compte tenu des prévisions météo en utilisant du spatial, à quel moment est-ce que ça va être le plus utile, par exemple, d'irriguer? Et quel volume? Donc simplement des informations, pas forcément des informations très complexes et packagées dans un environnement digital dernier cri, mais qui sont simplement poussées à l'utilisateur de manière extrêmement simple. C'est aussi ça, le spatial pour l'agriculture. Donc c'est vraiment des exemples qui sont nombreux. Le secteur maritime, le spatial, il irrigue aussi à travers, sur les bateaux de pêche pour simplement être capable de mesurer vos quotas, savoir ce que vous avez pris, ce que vous avez pas pris, pour être capable de vous repérer, pour être capable aussi de vous secourir s'il y a un problème. Le spatial est aussi extrêmement utile pour... on sait que, par exemple, avec les interférences électromagnétiques, on est capable de repérer des navires qui, par exemple, auraient la mauvaise idée de couper leur
système d'identification.
Leur système d'identification. Et on sait très bien qu'il y a énormément... Dans tous les pêcheurs clandestins font ça, donc ça permet aussi de repérer les pêcheurs clandestins. Demain, les grandes compagnies de navigation maritime qui vont utiliser le spatial, elles l'utilisent déjà aujourd'hui pour communiquer, évidemment, pour les prévisions météo, mais c'est aussi demain pour éventuellement modifier légèrement leur route, pour tenir compte de tel ou tel courant, et donc de réduire un peu leur consommation énergétique de quelques pourcents. Donc, mais ces quelques pourcents, non seulement ils pèsent leur poids en CO2, mais ils sont aussi intéressants pour les entreprises pour réduire leurs coûts. Et puis la gestion des territoires, eh bien on voit toutes les politiques publiques aujourd'hui qui sont irriguées par le spatial. Alors que ce soit, j'ai envie de dire, un certain nombre d'administrations, et je ne parle pas nécessairement en France, mais qui vont utiliser le spatial pour savoir si vous avez une piscine dans votre jardin ou pas, et si par hasard il n'y a pas une taxe que vous auriez oublié de payer. Mais c'est aussi le suivi des constructions, c'est le suivi de la biodiversité, c'est le suivi du trait de côte, c'est énormément de sujets qui sont irrigués aujourd'hui et encore plus demain par le spatial. Et on a besoin du New Space pour faire l'intermédiaire entre ces données qui arrivent et qui arrivent souvent de manière un peu brute, et puis des applications qui vont arriver derrière à l'utilisateur final. Donc on a besoin de cette couche intermédiaire, et le New Space a un boulevard là-dedans.
Et alors, du coup, quel est le rôle du CNES? Il fait figure de quoi? De force de l'ordre qui régule la circulation, d'accélérateur, de transporteur, de booster?
Alors, moi, je me place pas du tout dans une logique de force de l'ordre. Hein. Enfin, alors, peut-être sur un certain nombre de sujets.
Il y a quelques questions de régulation qu'on va aborder.
Non, mais tard, ouais. Peut-être sur quelques sujets, mais pour le développement de cet écosystème, mon seul sujet, mon seul objectif, c'est justement que cet écosystème se développe en France, évidemment, en France et en Europe, mais qui se développe fortement en France. On a des champions du grand spatial qui s'est développé tout au long des dernières décennies, et je pense que le CNES a joué un rôle essentiel là-dedans. On va continuer à investir avec ces grands acteurs traditionnels, mais à côté de ça, on pense qu'il y a de la place pour de nouveaux acteurs. Et donc, on investit là-dedans. Et on investit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on essaye d'accompagner des gens qui ont envie de créer des start-up dans le domaine du spatial, que ce soit des gens proches, des gens qui viennent du CNES, qui viennent des cousins, que ce soit au CNRS ou ailleurs, mais aussi des gens qui viennent de l'industrie ou des gens qui viennent de secteurs complètement différents et qui ont une idée de business dans le spatial, mais qui n'ont pas forcément la techno. Et moi, je pense que fondamentalement, notre rôle, il est aussi de voir comment on peut les aider. Je pense qu'on doit être extrêmement ouvert. Moi, c'est mon motto. Je pense qu'on a dans nos laboratoires des pépites technologiques, un savoir-faire absolument incroyable, et on en exploite encore aujourd'hui qu'un tout petit bout. Et donc moi, je suis à chaque fois qu'il y a un partenariat qui peut se nouer avec telle ou telle start-up ou tel grand groupe pour utiliser des technos qui ont été développées au CNES ou avec des brevets du CNES. Et moi, je suis juste ravi. Le but du jeu, c'est que ce qu'on fait, ce qu'on construit, qui est vraiment au top de la tech, il soit utilisé le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, je me place pas du tout en police du système. Je pense que c'est un système. Ça a peut-être été à un moment donné le rôle du CNES. C'est plus du tout le cas, je pense, aujourd'hui. On est incontournable pour un certain nombre de questions, de régulation, etc., bien sûr. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi voir que le spatial évolue tellement vite et à une telle vitesse. Le jour où on verra vraiment des boîtes investir dans le spatial sans qu'on soit du tout au courant, mais ce sera presque un succès, entre guillemets, parce que ça veut dire que le système s'est tellement développé que, voilà, il se développe de partout. Il y a plein de secteurs industriels où c'est le cas, déjà, aujourd'hui, pas dans le domaine du spatial, mais chez des cousins. Bon, voilà. Donc moi, je veux qu'il y ait une activité très forte économique autour du spatial. Ça fait partie de nos enjeux. Et nous, on est là, évidemment, pour aider, pour le développer, et puis pour le guider dans un certain nombre de directions qui nous semblent essentielles pour l'État.
J'essaie de retraduire ce que vous venez à l'instant de dire. Alors, on pourrait imaginer que, à terme, alors je ne sais pas de combien d'années, mais par exemple, une division comme celle de Connect by CNES puisse sortir carrément du cadre du CNES, enfin, devienne tellement grosse que, voilà, il lui faut sa propre structure, son propre fonctionnement.
Bon, tout est possible, mais je pense que l'intérêt majeur de Connect by CNES, c'est bien de connecter le CNES avec son savoir-faire technologique, avec ses moyens d'essai, avec ses capacités à faire des choses et l'extérieur. C'est ce pont-là qui est absolument essentiel. Connect by CNES, c'est aussi sa capacité d'évangélisation du spatial vers des secteurs industriels qui savent pas forcément immédiatement pourquoi est-ce que le spatial pourrait les aider. Exactement.
Évoquez,
Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Connect by CNES, il est dans le CNES. Est-ce que demain, il faut changer ça ou pas? Tout est possible. Je suis pas sûr que ce soit la priorité. Donc là, l'important, c'est la connexion.
Au cours de différents entretiens, et notamment liés aux notions d'espace durable, je ne savais même pas qu'on pouvait parler de durabilité, en tout cas dans l'espace, mais c'est une vraie question qui se pose actuellement. Il y a même la conception de satellites ou d'engins de façon générale que moi j'ai nommé techno-dégradables, bon bien sûr en analogie à biodégradables. Pour autant, quand on est comme vous, patron du CNES, est-ce qu'on, enfin, quel genre de questions on se pose pour repenser les vieux paradigmes de conception, par exemple, de satellites, parce que ça fait 60 ans qu'on les construit et qu'on les fait vivre finalement de la même façon.
Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'investissements dans le spatial, donc il y a beaucoup de nouveaux satellites qui arrivent, et donc effectivement, il y a un potentiel risque d'encombrement d'un certain nombre d'orbites. Alors, c'est pas tellement les orbites géostationnaires qui sont très éloignées et où finalement les choses, entre guillemets, sont très statiques. C'est plus l'orbite basse qui est potentiellement la plus encombrée et la plus compliquée à gérer. On voit bien que si les choses ne se règlent pas dans les années qui viennent, on va avoir un vrai encombrement de l'orbite. Et donc, avant tout, un problème de disponibilité de cette orbite qui est très intéressante. Donc j'aurais envie de dire, le secteur spatial est le premier intéressé à avoir des mécanismes de régulation. Un deuxième sujet qui est absolument central, c'est que au-delà du fait qu'il faut être capable de gérer la fin de vie de nos satellites, il faut aussi être capable de gérer toutes les questions d'évitement et de collision. Et là aussi, on est dans un système qui est un peu balbutiant, parce que on était pendant des décennies dans un environnement vide. Bon, je dis pas que c'est pas la place de la Concorde à 18h. Mais enfin, il commence à y avoir du monde. Et des alertes, des évitements, des manœuvres à mettre en place, il y en a tous les jours. C'est encore, au niveau mondial, très artisanal. On a un vrai besoin, l'ensemble des États qui s'intéressent au spatial, d'avoir un niveau de coordination et de dépasser toutes les difficultés politiques. Mais il faut arriver à les dépasser pour mettre en place ces règles-là. En Corée du Nord, on a des règles de circulation aérienne qui sont compatibles avec celles qui sont mises en place internationalement. Bon, ben, voilà. Si on y arrive, on doit sans doute arriver à faire des choses dans l'orbite basse, dans le monde du spatial.
Et là, actuellement, de ce que j'ai pu observer, c'est surtout l'intelligence artificielle qui vient, en tout cas, au niveau de certaines solutions proposées justement pour cette partie qu'on appelle le SSA, si je dis pas de bêtises, en tout cas la surveillance et la sécurité du proche espace. Vous pensez que, justement, la confiance mise dans l'intelligence artificielle sera suffisante pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse gérer...
Comme je suis un informaticien, je me méfie toujours un peu du terme d'intelligence artificielle, même si je sais qu'aujourd'hui il est très très répandu. C'est de l'algorithmique, hein. C'est quoi ? C'est simplement être capable de faire de la prédiction, de trajectoire, de voir à quel moment est-ce qu'on va avoir une possible collision, et puis de gérer cette collision, et de gérer ce conflit en essayant d'éviter d'en faire un autre, d'en créer un autre.
Avec des objets qui vont à 8 km/s aussi.
Oui, c'est vrai, mais par contre, qui sont la plupart du temps sur des trajectoires qui sont quand même très prévisibles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez quelques points, vous savez quelle est la dynamique du vol. Donc, oui, c'est que ça peut être compliqué, mais en même temps, c'est quelque chose qui est théoriquement faisable. Mais avant même de parler de solutions algorithmiques, etc., on a des problèmes de régulation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord.
Sous le prisme du New Space, donc pas en tant que, je dirais, grande agence nationale ou en tout cas étatique, comment vous envisagez les futurs défis spatiaux ? Alors, je pense dans un premier temps à la Lune, et puis bon, évidemment, ligne de mire Mars.
Pour la Lune comme pour Mars, ce qui change fondamentalement par rapport aux missions précédentes, c'est-à-dire par rapport à Apollo, c'est qu'on est parti pour y rester. Et donc, il se pose, dès lors, un nombre de questions incalculables sur la manière dont on va habiter demain sur la Lune, après-demain, peut-être sur Mars. Le après-demain, je pense qu'il sera assez lointain. Enfin, mais en tout cas, la Lune. Parce que habiter sur la Lune, ça pose un nombre incroyable de questions en termes d'habitat, en termes d'énergie, en termes de recyclage, de réutilisation des déchets, en termes d'économie de moyens, etc. Enfin, et donc, il y a plein de start-up qui, aujourd'hui, s'intéressent à ces questions-là. Et alors, en plus, c'est extrêmement intéressant parce qu'elles regardent, comme elles savent bien que le marché lunaire, bah certes, il est là, mais enfin, en même temps, il n'est pas non plus immédiatement là. Et puis, il y aura peu d'élus. Donc, à chaque fois, la plupart du temps, ils ont un regard qui est vraiment dual. C'est-à-dire qu'ils regardent à la fois les applications sur la Lune pour demain matin, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas, par hasard, des utilisations dès aujourd'hui sur Terre de ce à quoi ils sont en train de penser pour la Lune. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc, en termes de recyclage, en termes d'habitat, en termes d'agriculture, etc., il y a plein d'exemples de start-up qui font ça aujourd'hui. Je pense que sur un certain nombre de sujets, on a besoin de capitaliser sur l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et donc, je pense que sur des sujets comme cela, on aura besoin d'Ariane Group, on aura besoin d'Airbus, on aura besoin de Thales. Et encore une fois, c'est très bien. Et eux-mêmes sont pas du tout statiques et sont vraiment en train de proposer des choses incroyables. Mais à côté de ça, On va avoir aussi des nouveaux projets qui vont être portés par des acteurs qui viennent avec non seulement des dents longues, mais surtout des idées très différentes, très risquées. Et encore une fois, ce goût du risque, il est intéressant.
Un dernier mot. Qu'est-ce que vous voudriez dire, là, aujourd'hui, à tous les entrepreneurs et les entrepreneuses du New Space français et européen?
Je vais reprendre un poncif. Space is hard. Et c'est vrai, le spatial, c'est difficile. Là, je pense techniquement. Moi, j'ai envie de dire aux entrepreneurs, vous avez des idées qui sont des idées parfois complètement dingues, très ambitieuses, etc. Et c'est très, très bien. Et pour que ça marche, il faut marier ces idées extrêmement ambitieuses et extrêmement risquées avec un socle technique solide. Et le socle technique solide, je pense que nous, les agences qu'on est prêts justement, on l'a, d'accord ? Et donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble très efficacement pour les aider aussi à construire leur avenir. Parce qu'on a ce socle technique, et donc, je crois vraiment qu'on peut leur apporter beaucoup. Et eux-mêmes peuvent nous apporter beaucoup parce que les solutions qu'ils vont développer, ça va être aussi les solutions qu'on va utiliser demain matin. Donc, je pense qu'on a une histoire incroyable à construire ensemble, comme on a construit avec d'autres grands industriels, déjà tout le spatial d'aujourd'hui.
Un immense merci à Philippe Baptiste ainsi qu'aux équipes de la présidence du CNES pour nous avoir aussi chaleureusement accueillis. La série Horizon Terre et Espace continue avec l'agriculture, la santé, les territoires, le Space Climate Observatory, plus connu sous son acronyme SCO, les nouvelles infrastructures spatiales, les nouveaux services en orbite et même l'espace durable. Restez bien connectés, l'aventure continue avec les rendez-vous New Space par Connect by CNES. À écouter dès maintenant sur connectbyCNES.fr, Spotify, Deezer et Apple Podcasts.
Les rendez-vous New Space par Connect by CNES.